Après avoir consulté Marianne Jackson, l'experte en audition de mineurs, Didi avait réquisitionné une salle du service de la délinquance en col blanc. Les lieux étaient plus agréables que tout ce que la criminelle avait à offrir et, avec un peu de chance, moins susceptibles d'effaroucher la fillette. Marianne avait apporté deux chaises pliantes pour enfants, un tapis de couleurs vives en forme de fleurs et un panier qui regorgeait de petites voitures, poupées et autres matériels de dessin. En moins de 10 minutes, la spécialiste avait réussi à transformer cette splendide salle d'interrogatoire du service de la répression des fraudes en un super coin de jeu. Didi était bluffée. Elle était contente de la conférence de presse du matin, qu'elle avait volontairement écourtée. À ce stade, mieux valait ne pas trop en dire. Ils auraient plus tard moins d'insinuations à regretter s'ils devaient conclure que le délinquant sexuel ou, à Dieu ne plaise, un individu encore non identifié faisait de meilleurs suspects que le mari. D'ailleurs, leur principal objectif était de multiplier le nombre d'yeux et d'oreilles qui seraient à l'affût de Sandra Jones. De retrouver cette femme vivante et d'ainsi leur épargner à tous bien des soucis. 37 heures après le début de l'enquête, Didi espérait encore. Pas beaucoup, mais un peu. En cet instant, elle était tout affairée à disposer son carnet de notes et deux stylos sur la table de la salle d'observation. Miller se trouvait déjà là, dans le fauteuil le plus proche de la porte et apparemment perdu dans ses pensées, vu sa façon de caresser sa moustache en rythme. Elle se fit la réflexion qu'il devrait la raser. Une telle moustache exigeait, pour ainsi dire, un costume sport bleu pastel et elle n'avait aucune envie de voir le capitaine Brian Miller en costume sport bleu pastel. Mais elle ne dit rien. Les hommes peuvent être très susceptibles à ce sujet. Didi tripota à nouveau ses stylos billes et fit cliqueter. Les haut-parleurs étaient déjà branchés pour leur permettre d'entendre ce qui se dirait dans la salle d'interrogatoire. De son côté, Marianne était équipée d'un petit écouteur pour entendre les questions supplémentaires et les nouvelles demandes qu'il pourrait formuler dans un micro sans fil. Marianne leur avait déjà conseillé de se concentrer sur l'essentiel. En matière d'audition de mineurs, la règle, c'est 5 minutes par année de l'enfant. Ce qui leur donnait une vingtaine de minutes pour entendre tout ce qu'il y avait à apprendre de leur témoin potentiel de 4 ans, Clarissa Jones. Ils avaient mis leur stratégie au point. Des questions de base pour établir la crédibilité de Clarissa et ses capacités en tant que témoin, puis des questions toujours plus pointues sur les dernières minutes connues de Sandra Jones le mercredi soir. Cela faisait beaucoup de terrain à couvrir dans le temps imparti, mais Marianne avait insisté sur la nécessité d'être exhaustif. Auditionner plusieurs fois un enfant était risqué. L'avocat de la défense aurait au fait d'argumenter que la demi-douzaine d'auditions dont vous aviez eu besoin pour obtenir des détails n'avait été qu'une demi-douzaine d'occasions de harceler, enjôler et corrompre votre jeune et impressionnable témoin. Marianne leur accordait maximum 2 tentatives pour parler à l'enfant, et pour le meilleur ou pour le pire, Didi en avait déjà utilisé une en questionnant Clarissa chez elle le jeudi matin. C'était donc la dernière occasion. L'agent d'accueil leur signala l'arrivée de Jason et de sa fille. Marianne descendit aussitôt pour les faire monter rapidement, avant que Ree ne soit trop sous le choc de cette découverte d'un central de police. Certains enfants étaient captivés de voir des hommes et des femmes en uniforme, mais beaucoup étaient intimidés. Parler à une inconnue était assez difficile comme ça, sans que Ree commence l'entretien morte de peur. Didi et Miller entendirent des bruits de pas dans le couloir. Ils se tournèrent vers la porte en s'attendant à les voir entrer, et malgré elle, Didi ressentit une boule au ventre. Auditionner un enfant était 100 fois pire qu'affronter les médias ou un nouveau commissaire divisionnaire. Elle en avait rien à foutre des journalistes ou, la plupart du temps, de son nouveau supérieur, alors que les enfants lui faisaient toujours de la peine. La première fois qu'elle avait auditionné un enfant, la petite fille de 11 ans leur avait demandé s'il voulait voir sa liste. Puis elle avait sorti de sa poche arrière un petit bout de papier, plié en un carré absolument minuscule. C'était une liste d'actes sexuels rédigés par le beau-père de la fillette. Branlette, 25 cents, fellation, 50 cents, baise, 1 dollar. Elle avait dérobé 20 dollars dans le porte-monnaie de son beau-père. C'était sa manière à lui de lui faire rembourser cet emprunt. Sauf que la dernière fois qu'elle lui avait rendu un service, il avait refusé de payer, et c'était ça qui avait mis l'enfant suffisamment en colère pour qu'elle vienne se plaindre à la police. Ah, cette pièce en avait entendu, de tristes histoires. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Didi entendit la voix de Marianne. « Clarissa, tu es déjà allée dans une chambre magique ?» Pas de réponse, donc Didi supposa que Ree disait non de la tête. « Eh bien, je vais te faire entrer dans une pièce spéciale maintenant. Il y a un joli tapis, 2 chaises, des jouets auxquels tu aimerais peut-être jeter un œil. Mais c'est aussi une pièce très spéciale avec des règles spéciales. Je vais te raconter tout ça, d'accord? Mais d'abord, il faut que tu dises au revoir à ton papa. Il va t'attendre dans cette pièce, juste là. Comme ça, il ne sera pas loin si tu as besoin de lui. Mais cette chambre magique, elle n'est rien que pour toutes les deux. Toujours pas de réponse. Comment s'appelle ton petit copain, dis-moi? Oh, pardon, ta petite copine. Doudou Lapine! J'aurais dû me douter que c'était une fille avec cette robe rose. Eh bien, Doudou Lapine, est-ce que tu aimes les grandes fleurs roses? Parce que tu m'as l'air d'une lapine à qui ça pourrait plaire de voir une fleur rose vraiment énorme. Mais alors immense, le genre de fleur qu'il faut voir pour le croire. C'est vrai? Alors viens, je vais te montrer, et je vais un peu t'expliquer la magie. La porte de la salle d'observation s'ouvrit et Jason Jones entra dans la pièce. Le père de Clarissa marchait avec raideur, comme au radar. Son visage avait repris cet air muré, celui qui conduisait Didi à se demander si c'était un psychopathe fini ou l'homme le plus stoïque qu'elle ait jamais rencontré. Il referma la lourde porte derrière lui, puis lança à Didi et Miller un regard quelque peu méfiant. Didi fit pivoter sur la table le formulaire de consentement qu'elle avait déjà imprimé et le glissa vers lui avec un stylo plume noire. Ce formulaire prouve que vous avez donné votre consentement à une audition de votre fille par une spécialiste pour le compte de la police de Boston. Jason lui lança un regard comme surpris que son autorisation ait réellement une importance, mais il signa le papier sans mot dire et le lui rendit avant d'aller se poster contre le mur face à la vitre d'observation. Il s'adossa et croisa ses bras sur sa poitrine. Son regard se dirigea vers la vitre par laquelle ils virent Marianne et Rhee entrer dans la salle d'interrogatoire. Rhee se cramponnait comme une malheureuse à un lapin marron en loques dont les longues oreilles tombantes lui dissimulaient les mains. Marianne referma la porte. Elle s'avança vers le centre de la pièce, mais plutôt que de prendre une des petites chaises pliantes rouges, s'assit en tailleur au bord du tapis rose. Elle passa la main par-dessus à plusieurs reprises, comme pour inviter l'enfant à s'asseoir. Didi prit le micro et indiqua à l'adresse de Marianne « Le consentement est signé, vous pouvez commencer. » Marianne acquiesça discrètement en effleurant du bout des doigts l'écouteur niché au creux de son oreille. « Qu'est-ce que tu en dis ?» demanda-t-elle à Clarissa en désignant le tapis rose. « Elle est jolie, cette fleur. On dirait un tournesol, je trouve, sauf que je ne crois pas qu'il y ait de tournesol rose. »« C'est une marguerite, » corrigea Rhee d'une petite voix. « Maman en fait pousser. »« Une marguerite, bien sûr. Tu es forte en fleurs. » Rhee était toujours debout, accroché à son lapin usé. Ses doigts avaient trouvé une de ses oreilles et la caressaient en rythme. Ce mouvement inconscient serra le cœur de Didi. Elle faisait la même chose quand elle était petite, avec un chien en peluche. Elle avait fini par détacher ses oreilles de sa tête râpée. « Bon, comme je te l'ai dit en bas, je m'appelle Marianne Jackson », expliquait avec gaieté la spécialiste. « Mon travail, c'est de parler aux enfants. C'est mon métier. Je parle avec des petits garçons et des petites filles, et il faut que tu saches, Rhee, que ce n'est pas si facile que tu crois. » Pour la première fois, Rhee réagit, le front légèrement plissé. « Pourquoi ?» Pour commencer, il y a des règles spéciales quand on parle aux petits garçons et aux petites filles. Tu le savais, ça. Rhee se rapprocha en secouant la tête. Elle touchait la fleur rose du bout des pieds. Elle semblait examiner le tapis. Eh bien, comme je te l'ai dit dehors, nous sommes dans une chambre magique. Et il y a quatre règles pour discuter dans une chambre magique, dit Marianne en énumérant sur ses doigts. 1. On ne parle que de ce qui s'est réellement passé, pas de ce qui aurait pu se passer, mais de ce qui s'est réellement passé. Rhee fronça à nouveau les sourcils, s'approcha insensiblement. Tu comprends la différence entre la vérité et un mensonge, Clarissa. Marianne sortit un chien en peluche du panier à jouets. Si je dis que c'est un chat, c'est la vérité ou un mensonge? Un mensonge, répondit Rhee par automatisme. C'est un chien. Parfait, voilà pour la première règle. On ne parle que de la vérité, d'accord? Rhee hocha la tête. Apparemment fatiguée de rester debout, elle s'assit juste à l'extérieur de la fleur, son lapin sur les genoux. La deuxième règle, c'est que si je te pose une question dont tu ne connais pas la réponse, tu dis juste que tu ne sais pas, compris? Rhee hocha la tête. Quel âge j'ai, Clarissa?
95 ans, répondit Rhee.
Marianne sourit, l'air un peu dépité. Voyons, Clarissa, est-ce que tu sais quel âge j'ai? Est-ce que tu l'as demandé ou est-ce que quelqu'un te l'a dit? Rhee fit signe que non. Alors en fait, tu ne sais pas quel âge j'ai. Est-ce que tu es censé répondre quand tu ne sais pas quelque chose?
Je ne sais pas, répondit docilement Rhee.
Bravo, où est-ce que j'habite? Rhee ouvrit la bouche puis sembla se reprendre. Je ne sais pas,
s'écria-t-elle avec une pointe de triomphe cette fois-ci. Marianne eut un grand sourire. « Je suis sûre que tu es super forte à l'école. Tu es très bonne élève ?»«
Je suis très précoce, » s'enorgueillit Rhi. « C'est ce que tout le monde dit. »«
Précoce ?»« C'est bien mon avis et je suis drôlement fière de toi. »
Bon, la règle numéro 3, si tu ne te souviens pas de quelque chose, tu as le droit de dire que tu ne te souviens pas.
Alors, quel âge avais-tu quand tu as commencé à marcher ?
Je marche depuis que je suis née, commença Harry avant de se souvenir de la règle numéro 3.
Elle lâcha son lapin en pluche et battit des mains avec jubilation.
Je ne me souviens pas !
Tu es la meilleure élève que j'ai jamais eue, dit Marianne, toujours assise en tailleur sur le tapis. Elle leva 4 doigts.
D'accord, élève modèle, la dernière règle. Tu sais quelle est la règle numéro 4 ?
Je ne sais pas ! Cria Harry, épanoui.
Trop forte.
Bon, la règle numéro 4, c'est que si tu ne comprends pas quelque chose que je dis ou que je demande, tu as le droit de répondre que tu ne comprends pas.
Capisci ?
Capisco ! Répondit aussitôt Harry. Ça veut dire « je comprends » en italien, je connais l'italien, Madame Suzy nous l'apprend.
Marianne resta un instant interloquée. Apparemment, même dans le monde des spécialistes de l'audition de mineurs, il y avait précoce et précoce.
Honnêtement, Didier avait du mal à garder son sérieux. Elle lança un regard de côté vers Jason, mais il avait toujours le même visage sans expression.
« Plus de courant », songea-t-elle à nouveau. Il était dans la pièce, mais éteint.
Cela lui fit penser à une ou deux choses, et elle griffonna une petite question sur son carnet.
Dans la salle d'interrogatoire, Marianne Jackson semblait reprendre ses esprits.
« Parfait, donc. Tu connais les règles. Alors, dis-moi, Clarissa.
Oui, tout le monde m'appelle lui. »
Et pourquoi on t'appelle comme ça ?
Parce que quand j'étais bébé, je ne savais pas dire Clarissa. Je disais Rhi. Et ça a plu à ma maman et mon papa, alors ils m'appellent aussi Rhi. Sauf quand je fais des bêtises. Là, maman dit Clarissa Jane Jones. Et j'ai jusqu'à 3, sinon je vais au coin dans l'escalier.
Au coin dans l'escalier ?
Oui, je dois rester assise 4 minutes sur la marche du bas. Je n'aime pas être au coin.
Et cette petite copine que tu as dans les bras, Doudou Lapine, elle fait des bêtises des fois ?
Clarissa regarda Marianne étonnée.
Doudou Lapine est un jouet. Les jouets ne font pas de bêtises, seulement les gens.
Bravo, Clarissa. Tu es très maligne. L'enfant rayonna d'aise.
J'aime bien Doudou Lapine, continua Marianne sur le ton de la conversation. J'avais un Winnie l'ourson quand j'avais ton âge. À l'intérieur, il y avait une boîte à musique et quand on la remontait, ça jouait Twinkle Twinkle Little Star.
Moi aussi j'aime bien Winnie, dit Rhi avec sérieux. Elle s'était approchée à présent jusque sur le tapis. Et elle regardait d'un air interrogateur le panier en osier de l'autre côté de Marianne.
« Où il est, ton Winnie ? Dans le panier ?»«
Il est à la maison, en fait, sur mon étagère. C'était un jouet qui comptait beaucoup pour moi. Et je crois qu'on ne se sépare jamais des jouets qui ont beaucoup compté. »
Cependant, Marianne posa le panier sur le tapis, plus près de lui, désormais clairement intéressée et très curieuse de découvrir ce que la chambre magique contenait d'autre. Didi lança vers Jason Jones un deuxième regard en coin, toujours aucune réaction. Joie, tristesse, inquiétude, angoisse, nada. Elle nota une deuxième chose dans son carnet.
Oui, tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui ?
L'enfant perdit un peu de sa vivacité. Ses épaules se voûtèrent légèrement et ses mains se mirent à caresser son lapin pendant qu'elle se rasseyait.
Papa a dit que tu étais gentille, que si je te parlais, tout irait bien.
À cet instant, Didi sentit Jason se raidir. Il ne bougea pas, ne dit rien, mais les veines de son cou saillirent brusquement.
« Qu'est-ce qui irait bien, ma belle ? » ?»«
Est-ce que tu vas ramener ma maman ?» demanda Rhi d'une voix sourde.
« Mr. Smith est revenu, ce matin. Il a gratté à la porte, alors on l'a fait rentrer et je l'aime beaucoup, mais... Tu vas ramener ma maman ? Elle me manque. »
Marianne ne répondit pas tout de suite. Elle semblait scruter l'enfant avec compassion tout en laissant le silence se prolonger. Par la vitre d'observation, Didi regardait avec attention le tapis rose, les chaises pliantes, le panier à jouets... N'importe quoi sauf le chagrin qui se lisait sur le visage de la petite fille. À côté d'elle, Miller s'agita sur sa chaise, mais Jason Jones ne bronchait toujours pas.
« Parle-moi de ta famille, » dit Marianne.
Didi reconnut cette technique d'audition, s'éloigner du sujet sensible, définir l'univers de l'enfant, puis revenir au point douloureux par des voies détournées.
« Qu'y a-t-il dans ta famille ? » ?»«
Il y a moi et maman et papa. » commença Rhi, qui s'était remise à caresser les oreilles de Doudou Lapine. Et Mr. Smith, évidemment, deux filles et deux garçons.
Didi prit à nouveau des notes. La généalogie familiale vue par la fillette de 4 ans.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille ? Demanda Marianne. Des oncles, des tantes, des cousins, des grands-parents ou quelqu'un d'autre ? Ri répondit que non. Didi écrivit « Famille élargie, trois points d'interrogation ». L'enfant ne connaissait apparemment pas l'existence de son grand-père, ce qui confirmait peut-être que, comme Jason Jones l'avait affirmé, Sandra était brouillée avec son père, ou alors qu'il avait parfaitement réussi à isoler son épouse bien plus jeune que lui.
Et des babysitters ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de toi, Ri ?
Ri regarda Marianne sans comprendre. « Maman et papa s'occupent de moi. »
« Bien sûr, mais quand ils travaillent ou qu'ils ont besoin d'aller quelque part. »
« Quand papa travaille, maman me surveille, » répondit Ri. « Ensuite, papa rentre et maman va travailler, mais papa doit dormir, donc je vais à l'école. Ensuite, papa vient me chercher et c'est l'heure des papas. »
« Je vois. Où est-ce que tu vas à l'école, Ri ?»«
Je vais à la maternelle, dans le bâtiment en briques avec les grands. Je suis dans la classe des petites fleurs. Mais l'année prochaine, quand j'aurai 5 ans, j'irai dans la classe de grande section. »«
Qui sont tes maîtresses ?»«
Mademoiselle Émilie et Madame Suzy. »
Et tes meilleures amies ?
Je joue avec Mimi et Olivia. On aime bien jouer aux fées.
Je suis une fée du jardin.
Donc tu as de meilleures amies.
Et ton papa et ta maman, qui sont leurs meilleures amies ?
C'était une autre question d'usage, généralement posée dans les affaires d'agression sexuelle sur mineurs, lorsque le suspect pouvait être, non pas un parent, mais un voisin ou un ami de la famille. Il était important que l'enfant définisse elle-même son entourage pour que l'enquêteur, s'il devait citer un nom, ne donne pas l'impression d'avoir influencé le témoin.
Mais Ri secoua la tête.
Papa dit que je suis sa meilleure amie. Et puis il travaille beaucoup, alors je pense qu'il ne peut pas avoir des amis. Les papas sont très occupés. Cette fois-ci, Miller regarda Jason. Mais le père de Ri resta immobile contre le mur, le regard résolument fixé contre la vitre, comme s'il regardait une émission de télé et non l'audition de sa fille unique par une spécialiste chevronnée. Après quelques instants, Miller se détourna.
J'aime bien Madame Lisbeth. Ajouta spontanément Ri.
Mais maman et elle ne jouent pas ensemble, elles sont professeurs.
Comment ça ? Demanda Marianne.
Madame Lisbeth fait la classe au 5e. L'année dernière, elle a aidé maman à apprendre comment on fait la classe. Maintenant, maman fait la classe au 6e. Mais on voit encore Madame Lisbeth au match de basket.
Ah oui ?
Oui, j'aime bien le basket. Maman m'emmène regarder. Papa travaille, vous savez. Alors c'est le soir des mamans tous les soirs.
Youhou !
Un instant, Ri sembla oublier la raison de sa présence dans la pièce. Puis, Didi vit la prise de conscience accabler soudain l'enfant. Ses yeux s'élargirent, puis tout son corps se tassa jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau voûtée au-dessus de son lapin en pluche, à caresser les oreilles de ce pauvre doudou. Derrière Didi, Jason Jones frémit enfin.
« Quand est-ce que tu as vu ta maman pour la dernière fois ?» demanda doucement Marianne.
Réponse étouffée, elle m'a mise au lit.
Tu connais les jours de la semaine, Ri ?
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, fredonna Ri d'une petite voix. Vendredi, samedi, dimanche.
Excellent, donc tu sais quel jour on était quand ta maman t'a mise au lit.
Ri ne parut pas comprendre. Puis elle se remit à chanter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Marianne hocha la tête et passa à autre chose. De toute évidence, l'enfant connaissait une comptine sur les jours de la semaine, mais pas les jours eux-mêmes. Heureusement, il existait d'autres astuces pour établir une date et un horaire avec de jeunes témoins.
Marianne poserait des questions sur les émissions de télé, les chansons à la radio, ce genre de choses. Les enfants ne sont peut-être pas très savants du point de vue d'un adulte, mais ils sont en général très observateurs, de sorte qu'on en arrive à déduire l'information nécessaire, souvent avec des résultats plus fiables que lorsqu'un témoin se contente de dire « mercredi soir à 8h ».
Alors, raconte-moi ta soirée avec ta maman, Ri. Qui était à la maison ?
Moi et maman.
Et Mr. Smith ou Doudou Lapine ou ton papa ou quelqu'un d'autre ?
Le « quelqu'un d'autre » faisait aussi partie de l'arsenal classique des techniques d'audition. Quand on présentait une liste de possibilités à un enfant, il fallait toujours terminer par « quelqu'un d'autre »,« quelque chose d'autre » ou « un autre endroit ». Sinon, vous influenciez le témoin.
« Mr. Smith, dit Ri, et Doudou Lapine, mais pas papa. Je vois papa dans la journée, maman le soir. »
Quelqu'un d'autre ?
Lui parut contrarié.
Le soir, c'est pour maman et moi. C'est notre soirée entre filles.
Didi nota quelque chose.
Et qu'avez-vous fait pendant cette soirée entre filles ? Demanda Marianne.
Des puzzles. J'aime bien les puzzles.
Quel genre de puzzle ?
On a fait le puzzle des papillons et ensuite celui de la princesse qui prend tout le tapis. Sauf que c'est devenu difficile parce que Mr. Smith n'arrêtait pas de marcher sur le puzzle. Alors ça m'a énervée et maman a dit qu'on devrait peut-être passer à autre chose.
Tu aimes la musique, Ri ?
Oui, j'aime la musique, répondit la fillette surprise. Est-ce que vous avez écouté de la musique, ta maman et toi, pendant que vous faisiez les puzzles? Ou est-ce que vous aviez allumé la télévision ou la radio ou autre chose? Rui secoua la tête. J'aime bien danser le rock sur Tom Petty, expliqua-t-elle avec simplicité. Mais il faut du calme pour les puzzles. Elle fit une mine, peut-être celle de sa mère, et se lança dans un sermon en agitant un doigt. Les enfants ont besoin de calme. C'est comme ça que le cerveau grandit. Je vois, répondit Marianne, l'air dûment impressionnée. Donc ta maman et toi avez passé un moment calme à faire des puzzles, et ensuite qu'est-ce que tu as fait?
Le dîner.
Le dîner? Oh, j'aime bien le dîner. Qu'est-ce que c'est ton dîner préféré?
Les macaronis au fromage.
Et les fraises tagada. J'adore les fraises tagada, mais on ne peut pas prendre ça comme dîner, seulement comme dessert.
C'est vrai, dit Marianne compatissante. Ma maman me laissait jamais manger de fraises tagada pour le dîner.
Qu'est-ce que vous avez mangé, ta maman et toi?
Des macaronis au fromage, répondit Rui sans hésitation, avec des petits morceaux de saucisses de dinde et de la pomme.
Je n'aime pas vraiment les saucisses, mais maman dit que j'ai besoin de protéines pour fabriquer du muscle, donc si je veux des macaronis, il faut que je mange des saucisses, conclut la fillette avec mélancolie.
Didi nota le menu, impressionnée non seulement par le niveau de détail, mais par la cohérence de Rui avec sa première déclaration du jeudi matin. Les témoins cohérents font toujours le bonheur des enquêteurs. Et les détails leur permettraient de confirmer le récit de Rui concernant la première partie de la soirée, de sorte qu'il serait plus difficile à un jury de ne pas tenir compte de ce que l'enfant avait peut-être à dire sur la deuxième partie de soirée. L'un dans l'autre, la petite Clarissa Jones faisait un meilleur témoin que 80% des adultes que Didi rencontrait.
« Qu'est-ce que vous avez fait après le dîner ?» demanda Marianne.
« Le bain !» s'exclama Rui.
« Le bain ?»«
Oui, maman et moi, on prend notre douche ensemble. Tu as besoin de savoir qui était dans la douche ?»
Rui avait apparemment compris le système.
« D'accord. Eh bien, pas Mr. Smith parce qu'il a horreur de l'eau, et pas Doudou Lapine parce qu'elle prend ses bains dans la machine à laver, mais la princesse Canard et la Barbie fée Mariposa et la Barbie princesse de l'île merveilleuse avaient besoin d'un bain, alors elles sont venues avec nous. »
Maman dit que je ne peux laver que trois choses, sinon je prends toute l'eau chaude.
Je vois.
Qu'a fait ta maman?
Elle s'est lavé les cheveux. Ensuite, elle m'a lavé les cheveux. Et puis, elle m'a grondé parce que je prenais trop de savon.
Marianne parut surprise.
J'aime la mousse, explique Harry. Mais maman dit que le savon coûte de l'argent et que j'en utilise trop. Alors, elle en met pour moi dans la petite tasse, mais jamais assez. Les Barbies ont beaucoup de cheveux.
Oui, si je te dis que j'ai les cheveux bleus, c'est la vérité ou c'est un mensonge?
Reconnaissant le jeu, Rui sourit et leva son index.
C'est un mensonge, et dans la chambre magique, on dit toujours la vérité.
Très bien, Rui, excellent. Donc, ta maman et toi, vous preniez votre douche et vous avez utilisé beaucoup de savon. Comment tu te sentais sous la douche, Rui?
Rui regarda Marianne d'un air perplexe, puis sembla avoir un déclic. Elle leva quatre doigts.
Je ne comprends pas, répondit-elle avec fierté.
Marianne sourit.
Encore excellent. Je vais essayer de t'expliquer. Quand vous prenez votre douche, ta maman et toi, ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Comment tu te sens?
J'aime les douches, dit Rui avec sérieux.
Mais je n'aime pas qu'on me lave les cheveux.
Didi sentit à nouveau l'hésitation de Marianne. D'un côté, il n'y avait rien de déplacé à ce qu'une mère prenne sa douche avec sa fillette de 4 ans. D'un autre côté, Marianne Jackson serait au chômage si aucun parent ne faisait jamais rien de déplacé. Quelque chose avait tourné au vinaigre dans cette famille. Leur travail était d'aider Rui à trouver les mots pour le leur dire.
Pourquoi tu n'aimes pas qu'on te lave les cheveux? Reprit Marianne.
Parce qu'ils font des nœuds. Ils sont pas courts, en fait, tu sais. Non, quand ils sont mouillés, ils arrivent jusqu'au milieu du dos. Il faut beaucoup de temps à maman pour rincer tout le shampoing et ensuite elle doit mettre de l'après-shampoing, sinon ils sont tout emmêlés. Et puis j'aime pas mes cheveux. Je voudrais avoir des cheveux raides comme Mimi, ma meilleure amie, conclut Rui dans un gros soupir.
Marianne sourit et poursuivit.
Et qu'est-ce que vous avez fait après votre douche?
On s'est séché et on allait dans le grand lit, et là maman a voulu que je lui raconte ma journée, mais moi je l'ai surtout chatouillée.
Où est le grand lit?
Dans la chambre de papa et maman. C'est là qu'on va après le bain. Et Mr. Smith saute sur le lit. Mais j'aime bien jouer à la bagarre et ça lui plaît pas.
Tu aimes jouer à la bagarre?
Oui, répondit fièrement Rui. Je suis forte. J'ai fait tomber maman par terre et ça m'a fait rire, dit-elle en levant les bras comme pour montrer ses biscottos. Ça a fait rire maman aussi.
« J'aime bien le rire de ma maman, » dit-elle avec mélancolie.
« Tu crois que ma maman est fâchée parce que je l'ai poussée du lit ?» Elle n'avait pas l'air fâchée, mais peut-être. Une fois, à l'école, Olivia a déchiré un dessin que j'avais fait et je lui ai dit que c'était pas grave, mais c'était quand même grave, alors ça m'a fâchée de plus en plus.
Je suis restée fâchée toute la journée. Tu crois que c'est ça qui s'est passé, que ma maman est restée fâchée toute la journée ?
Je ne sais pas, ma belle, répondit Marianne avec franchise. Quand tu as fini de jouer à la bagarre avec ta maman, qu'est-ce qui s'est passé ?
La fillette haussa les épaules. Elle semblait fatiguée à présent, épuisée. Didi consulta sa montre. L'audition durait depuis 44 minutes. Ils avaient largement dépassé leur objectif de 20 minutes.
C'était l'heure du lit, marmonna Harry. On s'est mis en pyjama. Qu'est-ce que tu portais, Harry ?
Ma chemise de nuit petite sirène.
Et ta mère ?
Elle porte un t-shirt violet. Il est très long et descend presque jusqu'aux genoux. Didi prit une note. Encore un détail confirmé par la présence de la chemise de nuit violette dans la machine à laver.
Et après les pyjamas ?
Les dents, pipi, au lit, deux histoires, une chanson. Maman a chanté Puff the Magic Dragon.
Je suis fatiguée, déclara tout à coup la fillette avec un brin de mauvaise humeur. Je voudrais qu'on ait fini maintenant. On a fini ?
Presque, mon cœur.
Tu t'es vraiment très bien débrouillée. Encore quelques questions, d'accord, et ensuite tu pourras me demander tout ce que tu veux. Ça te plairait, ça, de me poser une question ?
Rui considéra Marianne un instant, puis, avec un brusque soupir d'impatience, elle acquiesça. Elle avait à nouveau le lapin en peluche sur les genoux, elle caressait ses deux oreilles.
Après que ta mère t'a mise au lit, qu'est-ce qu'elle a fait ?
Je comprends pas.
Est-ce qu'elle a éteint la lumière, fermé la porte, autre chose ? Comment tu dors la nuit, oui ? Tu peux me décrire ta chambre ?
J'ai une veilleuse, répondit tout bas la fillette. Je n'ai pas encore 5 ans. Je crois que quand on a 4 ans, on peut avoir une veilleuse. Peut-être que quand j'irai à l'école avec le quart de ramassage, mais je ne prends pas encore le quart, alors j'ai une veilleuse. Mais la porte est fermée. Maman ferme toujours la porte. Elle dit que j'ai le sommeil léger.
Donc, la porte est fermée, tu as une veilleuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta chambre ?
Doudou Lapine, bien sûr, et Mr. Smith. Il dort toujours sur mon lit parce que c'est moi qui me couche la première et que les chats adorent vraiment dormir.
Est-ce qu'il y a autre chose pour t'aider à dormir ? De la musique ? Une radio, un humidificateur, autre chose ?
Non.
Comment s'appelle mon chat, Harry ?
Je ne sais pas, répondit lui avec un grand sourire.
Très bien. Si je te disais que ces chaises sont bleues, ce serait la vérité ou un mensonge ?
Non, elles sont rouges.
Exact. Et on dit toujours la vérité dans la chambre magique, n'est-ce pas ?
Lui hocha la tête, mais Didi lui à nouveau l'attention dans le corps de l'enfant. Marianne se rapprochait du point sensible inexorablement.
« Tu es restée couchée, oui, ou bien est-ce que tu t'es relevée pour aller voir ta maman, faire pipi ou autre chose ?»
La fillette fit non de la tête, mais sans plus regarder Marianne.
« Que fait ta maman une fois que tu es couchée, oui ?» demanda doucement Marianne.
« Elle doit faire son travail pour le collège, corriger des copies, » dit l'enfant en relevant les yeux.
« Enfin, je crois. » « Est-ce que tu entends parfois des bruits en bas ? La télé peut-être, ou la radio ? Ta maman qui marche, ou autre chose ?»
« J'ai entendu la bouilloire, » murmura Harry.
« La bouilloire. » Elle sifflait sur la cuisinière. « Maman aime le thé. Quelquefois, on prend le thé et elle me fait du vrai thé à la pomme. J'aime ça. »
La fillette parlait toujours, mais sa voix avait changé. Elle semblait éteinte, l'ombre d'elle-même. Didi regarda Jason Jones, toujours adossé au mur du fond. Il n'avait pas bougé, mais affichait désormais une expression sévère.
« Ah oui, il touchait au but. » Oui, après la bouilloire, qu'est-ce que tu as entendu ?
Des pas.
Des pas ? Oui, mais ils n'étaient pas gentils. Ils étaient forts, en colère. En colère dans l'escalier.
Oh oh, dit-elle sur deux notes. Oh oh, papa est fâché.
Derrière Didi, Jason réagit pour la deuxième fois. Elle le vit fermer les yeux, déglutir, mais il ne dit toujours pas un mot. Dans la salle d'interrogatoire, Marianne était tout aussi silencieuse. Elle laissa le silence se prolonger jusqu'à ce que d'un seul coup, Rui se remette à parler en se balançant d'avant en arrière et en caressant frénétiquement les oreilles de son lapin en peluche.
« Quelque chose est tombé, c'est cassé. Je l'ai entendu, mais je me suis pas levée. Je voulais pas me lever. Mr. Smith s'est levé. Il a sauté du lit. Il est resté devant la porte, mais je voulais pas me lever. J'ai serré Doudou Lapine. Je lui ai dit de pas faire de bruit. Il faut pas faire de bruit. »
La fillette s'interrompit un instant, puis reprit soudain d'une voix basse, suraiguë. « Je t'en prie, ne fais pas ça » dit-elle, lugubre. « Je t'en prie, ne fais pas ça, je dirai rien. »« Tu peux me croire, je ne dirai jamais rien. Je t'aime encore. »
Lui leva les yeux. Didi aurait juré que l'enfant regardait droit vers son père à travers le miroir sans teint. Maman a dit « Je t'aime encore », elle a dit « Ne fais pas ça ». Et ensuite, il y a eu du bruit et puis j'ai pu écouter. J'ai bouché les oreilles de Doudou Lapine et je te jure que j'ai pu écouter et que je suis jamais, jamais sortie du lit. S'il te plaît, tu peux me croire, je ne me suis pas levée. « J'ai fini ?» demanda l'enfant 10 secondes plus tard, comme Maria n'avait toujours rien dit. « Où est mon papa ? Je veux plus être dans la chambre magique, je veux rentrer dans ma maison. »« Tu as fini, » dit Marianne avec gentillesse en effleurant le bras de l'enfant. « Tu as été une petite fille très courageuse, Rui. Merci d'avoir parlé avec moi. » Rui se contenta de hocher la tête. Elle avait les yeux vitreux. Ses 50 minutes de discussion l'avaient laissée à bout de force. Lorsqu'elle essaya de se relever, elle tituba. Marianne la soutint. Dans la salle d'observation, Jason Jones s'était déjà écarté du mur. Miller atteignit la porte juste avant lui et ouvrit la pièce sur le couloir inondé de lumière fluorescente. « Mademoiselle Marianne ?» demanda Rui dans la salle d'interrogatoire. « Oui, chérie. Tu as dit que je pourrais te poser une question. »«
C'est vrai, j'ai dit ça. Tu voudrais m'en poser une ? Demande-moi ce que tu veux. »
Marianne s'était levée, elle aussi, mais Didi vit alors la spécialiste s'arrêter, s'accroupir devant l'enfant pour se mettre à son niveau. Elle avait déjà détaché son petit micro et l'écouteur pendait dans ses mains.
Quand tu avais 4 ans, ta maman est partie ?
Marianne repoussa une boucle de cheveux bruns sur la joue de la fillette et il l'entendit répondre d'une voix nasillarde, lointaine.
Non, chérie, quand j'avais 4 ans, ma maman n'est pas partie.
Lui hocha la tête.
Tu avais de la chance alors.
Lui sortit de la salle d'interrogatoire. Elle aperçut son père qui l'attendait juste de l'autre côté de la porte et se jeta dans ses bras. Didi les regarda s'étreindre un long moment. Les bras délicats de l'enfant de 4 ans crispés autour de la présence solide de son père. Elle entendit Jason murmurer des paroles réconfortantes à son enfant. Elle le vit caresser doucement le dos tremblant de Rui. Elle se dit qu'elle comprenait tout l'amour que Clarissa Jones portait à ses 2 parents. Et comme souvent dans l'exercice de sa profession, elle se demanda pourquoi tant de parents ne se satisfont pas de l'amour inconditionnel de leur enfant. Ils procédèrent au débriefing 10 minutes plus tard, lorsque Marianne eut raccompagné Jason et Rui jusqu'à la sortie. Miller avait son idée, Marianne et Didi avaient la leur. « Quelqu'un est entré chez eux mercredi soir, » commença Miller. « Il a manifestement eu un affrontement avec Sandra, et la petite Rui croit que ce quelqu'un était son père. Ça pourrait bien sûr n'être qu'une supposition de sa part. Elle a entendu des pas, imaginez que ça devait être son père qui revenait du travail. »
Mais Didi n'était pas d'accord. Elle ne nous a pas tout dit.
Non, convient Marianne. Miller les regarda toutes les deux avec de grands yeux.
Rui est sortie de son lit mercredi soir, c'est clair, expliqua Didi. Et j'en veux pour preuve le mal qu'elle s'est donné pour nous expliquer le contraire.
Elle s'est levée, renchérit Marianne, et elle a vu quelque chose dont elle n'est pas encore prête à parler.
Son père ? Conclut Miller d'un air dubitatif.
Mais à la fin, cette façon de s'accrocher à lui,
c'est encore son père,
expliqua doucement Marianne. Or, elle est très vulnérable et terriblement effrayée de tous ces bouleversements dans son univers.
Pourquoi l'aurait-il laissé venir dans ce cas ? Contesta Miller.
Si elle était entrée dans la chambre mercredi soir et qu'elle avait vu son père se disputer avec sa mère, il ne voudrait pas qu'elle témoigne.
Peut-être qu'il ne l'a pas vu arriver sur le seuil de la chambre, suggéra Didi.
Ou alors il lui faisait confiance pour ne rien dire, ajouta Marianne. Dès leur plus jeune âge, les enfants acquièrent le don de protéger les secrets de famille. Ils voient leurs parents mentir aux voisins, à l'administration, à d'autres proches. Je suis tombée dans les escaliers, oui, tout va très bien. Et ils intériorisent ces mensonges au point qu'ils deviennent une seconde nature. C'est très difficile d'obtenir que les enfants fassent des révélations contre leurs propres parents. C'est comme de leur demander de sauter dans une piscine très profonde sans respirer.
Didi soupira, consulta ses notes.
Il n'y a pas de quoi demander un mandat, conclut-elle en pensant déjà à la suite des opérations.
Non, convint Miller. Il nous faut une preuve irréfutable, ou au moins le cadavre de Sandra Jones.
Alors mettez-en un bon coup, leur conseilla Marianne à tous les deux. Parce que je peux vous dire que cet enfant en sait davantage, mais elle se donne aussi beaucoup de mal pour ne pas savoir ce qu'elle sait. D'ici quelques jours, une semaine, il sera impossible de lui faire dire. Surtout si elle continue à passer tout son temps avec son cher papa.
Marianne commença à ramasser les jouets dans la salle d'interrogatoire. Miller et Didi s'en allaient lorsque le beeper sonna à la taille de Didi. Elle regarda l'écran, parut contrariée. Un enquêteur de la police d'État qui cherchait à la joindre. Ben voyons. Il suffisait d'organiser une petite sauterie médiatique et d'un seul coup, tout le monde voulait sa part de gâteau. Sagement, elle l'ignora et Miller et elle remontèrent au service criminel. « Je veux savoir d'où vient Jason Jones », dit Didi en gravissant les escaliers. « Un type aussi imperturbable et maître de lui-même, qui travaille comme journaliste à la petite semaine, qui s'assoit sur 4 millions et qui, d'après sa fille, n'a même pas de meilleur ami. À quoi il marche, ce mec ?» Miller haussa les épaules.
« On va mettre 2 enquêteurs à fouiller leur passé », continua Didi. « Du berceau à la tombe, je veux tout savoir sur Jason Jones, Sandra Jones et leurs familles respectives. Je peux vous dire que quelque chose va faire tilt. »
« Je veux son ordinateur, » murmura Miller.
« Eh, au moins on a ses poubelles.
Des nouvelles ? J'ai mis une équipe dessus, nous sortirons un rapport d'ici 1 heure ou 2. »«
Miller, » reprit-elle l'air soucieux.
« Quoi ?
Je sais que Ree avait quelque chose ce soir-là. Vous le savez aussi. »
« Et si le criminel aussi le savait ?»«
Jason Jones, vous voulez dire ?
Ou Aidan Brewster ? Ou l'inconnu 367 ?»
Miller ne répondit pas tout de suite, mais parut soucieux à son tour. Marianne Jackson avait raison. À l'heure qu'il était, lui était très, très vulnérable.
« On ferait mieux de se manier, » dit Miller d'un air sombre.
« Oui, je le pense aussi. »